Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 20h55 avec Pierre, Patrick et Mathieu. Salut à tous les trois.
Bonsoir, Babette.
Patrick, le compte est-il bon?
C'est compliqué. Vous voulez que je recompte les voix NUPES et majorité présidentielle?
C'est exactement ce que vous avez fait toute l'après-midi.
Non, non, une partie de l'après-midi. Non,
avec mais cette bataille des étiquettes.
Voilà, la bataille des étiquettes qui continue, figurez-vous, parce qu'il y a de nouveaux labels qui ont été décernés, notamment par la NUPES. Donc c'est assez amusant et on pénètre dans les arrière-cuisines électorales de cet entre-deux-tours de législatives.
Cet entre-deux-tours des législatives avec le parti LR qui pourrait venir à la rescousse de la majorité présidentielle. On en parle avec notre invité Jean-François Copé, ancien ministre du Budget et maire de Meaux. Bonsoir et merci de votre présence ce soir.
Merci à vous.
Mathieu dans le 5 sur 5.
Il fait chaud. Alors ça, c'est pas vraiment une info.
Non,
il,
ça, c'est vrai.
Il va faire chaud, c'en est presque une. Ouais. Et si je vous dis que les présentateurs météo se rebiffent, nous serons avec Evelyne Delia, les présentateurs météo, qui ne nous parle plus de barbecue et de piscine quand c'est la canicule, mais qui nous alerte sur le réchauffement climatique. On va en parler avec Evelyne Delia tout à l'heure.
Qui est sur notre plateau dans un instant. Pierre, dans votre œil.
À l'occasion de la sortie d'un très beau volume aux éditions Gallimard, je vous parlerai de l'un des trois grands auteurs des polars américains des années 30, Horace McCoy, l'homme qui avait écrit « On achève bien les chevaux ».
Oh.
Jean Castex.
C'est dans l'œil. Non, c'est pas Jean Castex.
C'est Horace McCoy.
On en parle dans votre œil ce soir. Et puis nos invités, juste après 20h, deux phénomènes. Audrey Fleurot, la superstar de HPI, la série la plus regardée actuellement par les Français. Et la jeune Mélia Bédia, elles sont réunies au cinéma. Elles dînent avec nous ce soir. Dîner préparé par Rebecca Beaufour, notre chef de la semaine, propriétaire du restaurant Dante. C'est Rue de Paradis à Paris au menu ce soir.
Bonsoir. Alors, au menu ce soir, je vous ai préparé un lecce de tigre. Un lecce de tigre, c'est une marinade obtenue à base de poisson servie avec un ceviche. Et je vais la revisiter pour vous la proposer avec des cerises et des fèves de saison.
Merci beaucoup, Rebecca. À tout à l'heure pour le dîner. Un mot, Jean-François Copé, avant de plonger la tête la première dans la bataille des législatives. Une question plutôt. Revient-il à l'État de décider de ce qui est juste? C'était l'un des sujets proposés ce matin aux 520 000 lycéens qui passaient le bac philo. Vous répondez quoi? Vous n'avez pas 4 heures. Hein.
Non, malheureusement, je n'ai pas 4 heures. Mais à partir du moment où l'État est régi par des principes démocratiques et procède de la souveraineté nationale et du suffrage universel, cela a du sens dès lors qu'il s'agit de l'organisation de la société.
Donc l'État a raison, l'État
lorsqu'il
décide
s'agit,
de ce qui est juste.
Lorsqu'il s'agit de l'organisation de la société et que cela se fait avec une légitimité démocratique et non pas une dictature.
Oui, donc ce n'est pas tout à fait décidé. Ce n'est pas l'État qui décide, c'est l'État au nom des citoyens.
C'est bien sûr l'État au nom des citoyens. Toute personne qui décide ne peut le faire qu'en procédant d'une légitimité. Soit par la force, c'est une dictature, soit par la démocratie, grâce au suffrage universel. Et
voilà.
Il faut se battre pour préserver ça.
Voilà un début
si
de
vous voyez ce que je veux
philo.
Dire.
Vous avez eu combien au bac philo?
Écoutez, je ne me souviens pas d'avoir eu une note exceptionnelle. Je crois que j'avais eu quelque chose comme 11 ou 12. Ce n'était pas extraordinaire.
C'est bien, ouais, c'est bien. Mention bien au bac. Oui, en 1980, l'année de l'élection de François Mitterrand.
Oui, oui, absolument. Moi, je n'ai pas pu voter, malheureusement. J'aurais peut-être pu empêcher le désastre. Qui sait.
On va y venir au désastre, en tout cas aux élections là, qui se jouent dimanche. Tout de suite, c'est l'édito de Patrick Cohen. Patrick, qu'est-ce qui se passe après la Révolution? On démarre tout de suite, toujours par votre édito, avec cette bataille des étiquettes qui continue dans cet entre-deux-tours des législatives.
Oui, avec des rebondissements dans cette polémique en apparence dérisoire sur le comptage des NUPES ou des PANUPES qui a occupé le débat public pendant deux jours. Ces accusations de tripatouillage ou de république bananière lancées par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, dont l'enjeu symbolique est de répondre à une question. Qui a obtenu le plus de voix dimanche dernier? La majorité présidentielle a-t-elle devancé la NUPES de 21 000 356 voix, comme le prétend le ministère de l'Intérieur, ou bien la gauche unie a-t-elle obtenu 19 812 voix de plus que la coalition macroniste, comme l'a calculé l'agence France-Presse? En réalité, la différence tient pour l'essentiel à trois candidats. Et trois candidats seulement, trois socialistes, Hervé Solignac en Ardèche, Dominique Potier en Meurthe-et-Moselle et Joël Aviragnet en Haute-Garonne. Trois candidats investis par le PS dans le cadre de l'accord NUPES, mais qui s'en sont démarqués et que le ministère a classés divers gauche.
Qu'en disent les intéressés?
Alors c'est là que ça devient intéressant. Hervé Solignac avait pris ses distances avec la NUPES. Il ne figurait plus sur le site officiel de la NUPES. Dimanche soir, après le premier tour, il a dit qu'il s'inscrivait dans le cadre de l'Union de la gauche. Son nom est réapparu. Dominique Potier, lui, a clairement dit qu'il ne voulait pas de cette étiquette. Il l'a répété dimanche soir après sa qualification pour le second tour. Mais il est resté NUPES, si je puis dire, à l'insu de son plein gré. Enfin, Joël Aviragnet, qui avait pour directrice de campagne Carole Delga, la présidente PS de la région Occitanie, opposante notoire à la NUPES, Aviragnet a été successivement investi, désinvesti et réinvesti. Pendant la campagne, il a été désavoué par les Insoumis et les Écolos qui ont soutenu contre lui une candidate Europe Écologie des Verts. Depuis hier, il a à nouveau le soutien de la NUPES et sa candidature vient d'être rajoutée sur la liste officielle.
Alors, qui a gagné?
Alors, si vous ajoutez les trois, c'est la NUPES. Si vous ne prenez en compte que le seul Solignac, la NUPES accuse environ 6000 voix de retard. Et si vous réintégrez les trois, à peu près 6000 voix d'avance.
Et les Outre-mer?
Alors là, c'est encore plus compliqué, parce que s'il n'y a pas eu d'investiture officielle de la NUPES, s'il n'y a pas eu d'accord formel, parce que les petits partis locaux dont sont issus la plupart des candidats n'ont pas été intégrés au départ dans la négociation nationale, il y a bien eu aux Antilles et à La Réunion, comme le disent les Insoumis, notamment, comme l'a dit Adrien Quatennin sur notre plateau hier soir, il y a bien eu des candidats qui se sont revendiqués de la NUPES. Donc, on est dans une sorte de flou et c'est assez difficile à trancher. Mais la famille vient de s'agrandir, puisque les Insoumis ont décidé d'apporter leur soutien à une série de candidats qui l'avaient demandé ou pas, d'ailleurs, et notamment un député sortant de Guadeloupe, Olivier Servat, qui s'était fait élire il y a 5 ans sous la bannière macroniste. Il était donc député sortant majorité présidentielle. Et il s'en est détaché. Servat a démissionné le 1er juin dernier du groupe LREM. Il avait pris ses distances pendant la crise sanitaire en se faisant remarquer notamment par ses positions anti-vax.
Lui, forcer une population qui a subi l'esclavage, c'est comme si on lui disait qu'on vous remet en esclavage dans la perception des populations, des peuples guadeloupéens et martiniquais.
Il comparait la vaccination à l'esclavage pour expliquer, pour justifier le refus des populations de se faire vacciner.
Il a bien fait
il
de partir.
Fait aussi, pardon ?
Non, je dis, il a bien fait de partir à l'extrême gauche, effectivement.
Il s'était fait remarquer aussi, pour autre chose, en 2012, pour des propos ouvertement homophobes.
Pour moi, être tolérant, ce n'est pas accepter l'intolérable. Et pour le chrétien que je suis, quand je lis la Bible, Deutéronome, il est écrit qu'un homme couche avec un homme ou une femme couche avec une femme, c'est une abomination.
Vous avez entendu ? Un homme qui couche avec un homme ou une femme avec une femme, c'est une abomination. Alors ce soir, donc, les Insoumis le soutiennent. Il est largement en tête du premier tour, hein, 43%. Il va sans doute être élu dimanche prochain. Les Insoumis le soutiennent. Les Insoumis le soutiennent nationalement. Mais colère des Insoumis locaux, ce soir, il est inconcevable de renvoyer à l'Assemblée nationale quelqu'un qui a soutenu Macron. Alors celui-là, il est Insoumis, il est NUPES ou il n'est pas NUPES ?
Oui. Votre regard, Jean-François Copé, sur ces contestations, ces accusations de tripatouillage de République bananière de la part de l'extrême gauche?
Bon, d'abord, c'est un peu loin de la portée des LR, hein, parce que nous, malheureusement, nous n'avons pas réussi à avoir des scores aussi élevés. Donc, je regarde ça avec quand même un peu de recul. Et puis, deuxièmement, je vois derrière tout ça quand même l'habileté manœuvrière, une nouvelle fois, de Mélenchon et de ses amis d'extrême gauche qui, depuis le début de cette campagne, ont tiré vers eux des débats qui parfois sont d'une assez grande futilité. Le vrai sujet, qui est 5000 voix de plus ou de moins, c'est pas ça. Le vrai sujet, c'est que nous sommes en présence d'une situation extrêmement grave, au sens où l'extrême droite et l'extrême gauche représentent maintenant dans ce pays des scores considérables, et que je trouve que le gouvernement et le président font preuve face à cette situation d'une légèreté absolument incroyable.
d'une légèreté, c'est-à-dire, parce qu'on a entendu Emmanuel Macron dramatiser l'enjeu de ce second tour. Hein.
Bah, on peut en parler. D'abord,
il y va de l'intérêt supérieur de la nation, c'est ce qu'il a dit sur le tarmac de l'aéroport d'Orly. Bah,
on peut en parler. Avant la dramatisation, il y a eu l'instrumentalisation quand même. Je rappelle que toute la campagne présidentielle, M. Macron, qui avait besoin des voix de l'extrême-gauche pour battre Mme Le Pen, dans ce moment-là, faisait une différence et parlait avec beaucoup d'égard. Je sais que les ministres avaient des consignes qu'il ne fallait absolument pas dire de mal des jeunes du 93. Les choses sont parfois un peu plus compliquées et moins caricaturales que ça. Deuxièmement, je les vois aujourd'hui incapables d'avoir une position claire. Je trouve ça absolument délirant pour savoir, dans des finales entre extrême droite et extrême gauche, qui ont choisi entre les deux. Bon, avec une Madame Borne qui nous dit, jeune, nouvelle Première ministre, bon, l'inexpérience à ce poste où il faut tellement être solide fait cruellement défaut.
Vous pensez qu'il devrait choisir l'extrême droite? Je ne comprends pas, là.
Ben justement, non. Ce qui est absolument scandaleux, c'est de voir Mme Borne dire bah, « pour l'extrême droite, c'est non, pour l'extrême gauche, on verra au cas par cas ». M. Guérini,
mais parce
comme
qu'ils
Clément
sont pas tous d'extrême gauche, vous dites extrême gauche, mais c'est une coalition.
Dans lequel il y a des socialistes,
on peut éventuellement qualifier les insoumis d'extrême gauche, mais c'est très contestable, mais pas les socialistes ou les écologistes.
Patrick Cohen, voilà des années que nous sommes en désaccord, vous et moi, sur ce sujet, donc je ne vais
donc
pas changer.
Donc les socialistes,
la gauche et l'extrême gauche.
Oui, à partir du moment où un socialiste accepte une alliance électorale avec un candidat d'extrême-gauche, il se compromet définitivement. Et je vous ferai observer d'ailleurs que si un candidat de droite s'alliait avec un candidat d'extrême-droite, on le qualifierait lui-même immédiatement d'extrême-droite. Donc il faut arrêter de faire croire aux gens que ça n'est pas la même chose. Cette espèce de manière dont on a à Paris de dire « Ah non mais vraiment, l'extrême-gauche c'est frais, c'est sympathique, bon, c'est dangereux, mais moins que l'extrême-droite ». La réalité, c'est que quand vous lisez le programme de M. Mélenchon, vous y trouvez les pires horreurs. Communautariste, c'est-à-dire abandon de la laïcité, anticapitalisme au plus mauvais sens du terme, au plus caricatural.
Il ne revient pas sur les lois fondamentales qui concernent la laïcité, pardon.
Mais défendez pas l'indéfendable.
Non, je ne défends pas l'indéfendable, vous dites communautarisme.
Enfin, à partir du moment où on tient les propos qu'il tient sur le burkini, nous savons pertinemment qu'il y a derrière tout cela des messages
qui sont...
Il n'y a rien de son bikini dans le programme. Mais tout le monde sait qu'il y a derrière tout cela des complaisances qui ne sont pas acceptables. Enfin, écoutez, en tout cas, moi, personnellement, je pense que c'est un message d'alerte extrême, vraiment. Et on a tort, tous autant qu'on est autour de nos différentes tables de débat, de ne pas le voir. C'est aussi dangereux que l'extrême droite. Ce n'est pas un peu moins dangereux. Et en réalité, quand vous voyez les appels à la violence dont fait preuve régulièrement M. Mélenchon et un certain nombre de ses amis, savoir que le Parti socialiste, parti de gouvernement, parti qui a été le parti de Jaurès, de Léon Blum, se retrouve à se compromettre pour sauver quelques sièges avec une extrême gauche gagnante, en réalité, ça les discrédite. Reconnaissez quand même qu'au moins LR aura eu cette grandeur de refuser toute alliance avec l'extrême droite et que quelque part, c'est quand même pas tout à fait la même configuration.
Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale sortante, était beaucoup plus clair que ce que vous dites, c'était hier sur LCI.
La perspective d'une cohabitation tant souhaitée par M. Mélenchon, eh bien ce serait une cohabitation impossible. Car les Françaises et les Français gardent plutôt un bon souvenir des cohabitations passées. Là, elle serait impossible.
Pourquoi ?
Tout simplement parce que sur des enjeux de fond qui sont à la fois des enjeux de sécurité, sur des enjeux qui relèvent de la crédibilité économique et sociale, on voit bien que on est dans une situation où tout le monde est aux antipodes.
Voilà, aux antipodes
bien sûr.
De la
Pourquoi est-ce que Mme Borne n'a pas eu ce même discours alors qu'elle est Premier ministre? Pourquoi est-ce que Clément Beaune a expliqué qu'il fallait faire barrage à l'extrême droite, mais pas à l'extrême gauche? Qu'est-ce qui fait que Stanislas Guérini, sur la 11e circonscription du Pas-de-Calais, a dit exactement la même chose? Tandis que la candidate, elle, En Marche, qui n'est pas qualifiée sur cette même circonscription, n'a pas appelé à faire barrage à l'extrême droite. Comment voulez-vous que les gens entendent un message qui est clair? Je trouve qu'il y a, et c'est pour ça que je vous parle de légèreté. Vous me dites, Monsieur Macron a dramatisé hier. Mais dans quel cadre? Enfin, écoutez, il est sur le tarmac d'un aéroport avant de prendre l'avion parce qu'il a Ukraine. Et en 5 minutes, il nous dit, il ne faut pas voter pour les méchants. Si vous voulez sauver la République, c'est pour mes candidats qu'il faut voter.
Donc vous pensez, comme Jean-Luc Mélenchon, que c'est un sketch à la Trump?
Mais je pense au-delà même de cela, que dans ce moment qui est mais extrêmement grave. Enfin, encore une fois, je répète, des scores inédits de l'extrême droite et de l'extrême gauche dans ce pays, avec une crise géopolitique majeure avec l'Ukraine, une crise économique qui est très importante avec l'inflation et la stagnation de la croissance. C'est pas trois minutes sur le tarmac. C'est un président de la République qui prend le temps, avec la solennité qui s'impose, de s'adresser aux Français pour expliquer les choses. Cette campagne présidentielle et législative est un immense rendez-vous manqué. On n'a rien dit d'important. On n'a parlé ni de sécurité, ni de la feuille de route des réformes. On n'est jamais rentré dans le détail.
Ça veut dire que dimanche,
un malentendu énorme.
Ça veut dire que dimanche, tout d'un coup, la France peut devenir ingouvernable au sortir des urnes.
Bah, écoutez, je pense qu'elle le sera au sens où il y aura une majorité qu'il faudra constituer. Il n'est pas du tout sûr qu'il a une majorité absolue au rythme où ça va. Et donc, un certain nombre de questions stratégiques vont se poser.
Notamment au LR.
Ah mais bien sûr, notamment au LR, évidemment. Ça fait des mois que je tire la sonnette d'alarme sur la situation de ma famille politique que j'ai présidée en d'autres temps.
Alors, oui, des mois que vous plaidez pour un pacte de gouvernement avec la majorité, mais personne ne vous a écouté. Là, on vous écoute un peu plus maintenant ?
Bah, on verra la semaine prochaine. Parce qu'en vérité, le véritable sujet, c'est de savoir qu'est-ce qui va en être des résultats de cette élection législative. Mais je pense qu'aujourd'hui, Monsieur Macron et ses amis ne méritent pas d'avoir la majorité absolue, parce que déjà que là, ils n'écoutent pas grand monde. Donc si demain, ils ont la majorité absolue, ils vont encore dire que de toute façon, ils ont la baraka et qu'ils peuvent continuer tout seuls à diriger sans écouter personne. Sauf qu'il y a des chaînons manquants énormes.
Donc là, vous souhaitez un score important de...
Comment ?
Vous souhaitez un score important de la NUP ?
Non, je souhaite un score important des Républicains. Et que je pense que ça doit être une manière aussi pour nous de venir apporter dans le jeu ce que Macron n'est pas capable d'apporter, c'est-à-dire tout le régalien qui explique une bonne partie de la montée de l'extrême droite en France. Et il est vrai que la politique de M. Macron, elle est très difficile à comprendre. Quand vous voyez qu'en l'éducation nationale, élément clé pour notre pays, il est passé de Jean-Michel Blanquer à Pape Ndiaye, Jean-Michel Blanquer qui a fait de la laïcité un combat, alors que l'on sait qu'à l'école, on a quand même d'énormes problèmes. Je suis maire de Meaux, vous le savez, c'est des combats que nous menons tous les jours pour ne rien lâcher sur ces sujets à l'école. J'ai porté en d'autres temps une loi d'interdiction de la burqa, parce que j'ai considéré, avec tous mes collègues élus de l'époque, que c'était pour nous tous une source d'inquiétude par rapport aux droits des femmes, à la laïcité. Vous savez quel est mon combat par rapport à ça. Quand je vois des messages contradictoires de M. Macron, je me dis, mais attention, à force de jouer sur tous les tableaux, il dessert véritablement les fondamentaux de ce qui nous fait vivre ensemble. Donc, une droite de gouvernement dans une majorité aujourd'hui qui est quand même très auto-centrée, qui ne veut plus écouter personne, sur la base d'un pacte de gouvernement, pas des débauchages individuels qui ne servent à rien, un vrai pacte, ça permet peut-être de reconstituer quelque chose qui peut donner beaucoup plus de force à la République.
Christian Jacob, le patron du parti, a dit que LR sera une opposition déterminée mais utile. Utile éventuellement pour voter des lois, lesquelles en particulier ?
Mais je pense que notre sujet, il est de voir comment est-ce qu'on peut être audible. Aujourd'hui, on n'est pas audible. Si nous faisons les scores que nous faisons, c'est bien que nous avons perdu notre identité. Et pourquoi on l'a perdu, cette identité ? On l'a perdu parce qu'on est, nous, un parti de gouvernement, par opposition à des partis extrémistes, populistes. On ne joue pas sur le même ring de boxe, en fait. On nous oblige à jouer avec eux, à dialoguer avec eux, à débattre. Mais c'est des débats qui sont asymétriques, parce qu'on n'est pas sur le même sujet. Quand Mme Le Pen dit X millions, enfin Mme Le Pen ou ses amis, X millions d'étrangers sans jamais vérifier les chiffres, lorsque M. Mélenchon raconte n'importe quoi sur la police qui tue, enfin, etc., en réalité, on les laisse dire, on dit « oui, mais c'est normal, ils sont extrémistes ». Nous, parti de gouvernement, je l'ai bien vécu, moi. Je fais une erreur sur le prix du pain au chocolat, j'ai 6 semaines de campagne de presse. Bon, pourquoi ? Parce que les Français, et ils ont raison, sont à la fois très indulgents avec les extrémistes dont ils savent qu'ils ne sont pas faits pour gouverner, et très exigeants avec les partis de gouvernement. Et c'est ça qui est à la fois passionnant dans la politique et difficile. Et quelle est notre mission ? Je vous le dis avec le recul qui est le mien. C'est justement d'incarner ce rendez-vous de bon sens, de raison. On est dans le pays de Descartes, on n'est pas simplement dans le pays des illuminations. Et donc notre but, il est justement de dire aux Français, attention, on fait ça pour nos enfants, pour notre avenir. On ne peut pas indéfiniment dépenser n'importe comment, comme le fait M. Macron qui croit espérer courir derrière M. Mélenchon. On ne peut pas faire semblant de voir qu'il y a d'énormes problèmes de délinquance au quotidien qui rend les gens fous, y compris dans les quartiers les plus difficiles de notre pays, et ne pas apporter de réponse.
C'est intéressant votre distinction entre les
partie de gouvernement. Vous, ça fait 10 ans que vous ne gouvernez pas, plus, et les partis extrémistes. Sauf, il y a eu une campagne présidentielle là, qui vient de se dérouler. Vous trouvez que le discours porté par LR, la candidate LR en l'occurrence, et le discours porté par le Rassemblement national était si différent, à la fois dans les thématiques et dans les propositions ?
Non, mais qu'il y ait eu des points communs sur certains sujets, bah, bien sûr. Nous, on parle de sécurité et d'immigration. Simplement, on ne fait pas les mêmes propositions et on n'en parle pas selon les mêmes termes que l'extrême droite. Non, mais...
Et avant la présidentielle, il y a eu une primaire aussi.
Je vous vois dodeliner, donc c'est normal. Je vais pas vous convaincre et vous n'allez pas me convaincre. Mais je vous dis juste que oui, il y a des différences. Et il y en a une en particulier. Et celle-là, je pense que vous pouvez l'entendre. C'est que nous, on a toujours refusé l'alliance avec l'extrême droite. Moi, j'avais inventé un concept, vous vous en souvenez, c'est la droite décomplexée. C'est quoi la droite décomplexée ? C'est une droite qui, parce qu'elle refuse toute alliance avec l'extrême droite, doit pouvoir dire les choses et apporter des réponses. Le PS n'a pas eu ce type d'élégance. Hein. Ils y sont plongés avec l'extrême gauche, mais alors allègrement pour sauver leurs meubles. Bon. Quelle gloire, quelle fierté. Je me dis que quelqu'un qui est de gauche, qui a une sensibilité de gauche, quand même doit se sentir un peu mal à l'aise de se dire « je suis socialiste, mais mes représentants, ils se sont alliés avec Mélenchon, qui est le leader de tout ça. Bon. » Donc, LR, et c'est important de poser cette question. Oui, on a échoué. Ben, pas vous dire le contraire, on a échoué. On a échoué pas à cause simplement de cette présidentielle. Et je dois dire que Valérie Pécresse, elle a fait une campagne hyper courageuse, dans un contexte qui était extrêmement difficile. Mais c'est au-delà de ça. C'est l'histoire de la droite depuis 2012. C'est l'histoire d'un parti de gouvernement qui n'arrive pas à convaincre les Français qu'il a un message à apporter, une identité politique. Et c'est vrai, si on ne fait pas attention, et c'est aussi pour ça que je propose, moi, qu'on impose, si on le peut, un pacte de gouvernement sur nos idées, bah, c'est qu'entre 2012 et 2027, c'est-à-dire que pendant 15 ans, on n'aura pas gouverné. Bah, un parti de gouvernement qui, pendant 15 ans, ne gouverne pas, ce n'est plus un parti de gouvernement. Or, nous, notre rôle, il est de servir les Français. Comment on peut le servir ? Dans nos mairies, ce que je fais avec d'autres, et dans les ministères. Voire au premier d'entre eux. Et c'est ça notre vocation. Si on ne le fait pas encore pendant 5 ans, mais on va servir à quoi ? Les gens vont dire, mais on n'a pas besoin de vous. C'est ça notre débat.
Parlons des 5 ans qui viennent. À la rentrée, Christian Jacob va quitter la présidence des Républicains. Le poste, c'est donc à prendre. Ce matin, sur France Info, Rachida Dati n'a pas dit non.
C'est vrai que la succession de Christian Jacob est ouverte. Moi, je l'avais dit d'ailleurs ici, je crois. J'avais dit, effectivement, ça pourrait m'intéresser de reconstruire cette famille politique.
Et aujourd'hui ?
Tout est ouvert, honnêtement, tout est ouvert. C'est pas, je me cache pas derrière mon petit doigt. La France est majoritairement à droite dans ses valeurs et ses attentes. Et donc, à nous de l'incarner, à nous d'ouvrir ces débats, parce qu'à force de se rétrécir, on n'incarne plus rien.
Rachida Dati ferait une bonne présidente du parti.
Bah ça, j'en sais rien, c'est un peu tôt quand même pour le dire. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'elle a un tempérament.
On
va le dire comme ça. Elle a une histoire, elle a une personnalité.
Absolument.
Et elle sait ce que c'est que participer à la direction de grandes organisations. J'ai présidé, vous le savez, l'UMP pendant des années. C'était une autre époque, je reconnais.
Vous n'avez pas envie d'y repiquer ?
Vous
n'avez pas envie d'y repiquer ?
Non, pour ma part, non. Mais en revanche, participer au débat public, au débat d'idées, oui, bien sûr. Et puis, partager un certain nombre de réflexions avec mes collègues ou amis, bien sûr. Et Rachida, elle a une sacrée personnalité. Et c'est quelqu'un qui peut apporter beaucoup. Bon, après, nous verrons les circonstances. Ce qui est vrai, elle l'a d'ailleurs très bien dit, c'est que nous, notre sujet, quand même, c'est de savoir sur quoi. Pourquoi ? Où est-ce qu'on apporte notre valeur ajoutée ? Et moi, je le vois bien, le chaînon manquant de l'équation macronienne, il est béant. Il est sur toute cette partie d'autorité régalienne, au sens noble du terme, sur lesquelles il n'y a pas de discours, dans lequel des gens sympas, mais qui n'ont pas d'expérience, qui sont extrêmement jeunes, j'ai rien contre, au contraire, j'ai connu ça, mais qui ont besoin d'être complétés par un peu d'expérience. Ben, je pense que dans ce domaine-là, il y a un peu à faire. Ah non, mais non, mais Gérald, c'est un surdoué de la politique.
Il ah bon
un...
ah bah...
Non, mais c'est pas du tout. Je vais vous dire.
Comme il est jeune et qu'il est
vous
au ministère de l'Intérieur.
Non, mais vous avez tout à fait raison. Non, mais Gérald Darmanin, je connais extrêmement bien. C'est quelqu'un qui a énormément de qualités et qui fait, mais alors vraiment, tout ce qu'il peut, sans moyens politiques, sans majorité, dans des conditions épouvantables. Et dès qu'il a le malheur d'en dire un peu trop, sa tenue est immédiatement rectifiée. On l'a vu au moment du Stade de France où on l'a obligé, au lieu de parler des voyous qui avaient quand même agressé comme ils l'ont fait. Il a été obligé de parler de riverains. Bon, c'est vous dire combien on était quand même très, très loin.
Darmanin,
en période électorale, vous savez, c'est des périodes à risque pour les ministres.
Bah,
c'est normal.
De dire la vérité.
Bah, vous avez devant vous un porte-parole de carrière. Hein. Moi, j'ai été porte-parole du gouvernement pendant des années. Donc je sais très bien Je sais très bien que ce sont des périodes, je parle des périodes électorales législatives, où on fait très attention à tout ce qu'on dit, parce qu'on peut ne pas être repris dans le coup suivant. Vous savez, l'intérêt de ma présence avec vous, c'est aussi peut-être de vous parler un peu des coulisses, de ne pas vous faire de la langue de bois. Donc je vous dis, la réalité des choses, c'est qu'on est dans une période où les ministres sont absolument tétanisés, et c'est normal, ils n'ont pas trop le choix. Bon, alors, moi, c'est pour ça que quand j'entends M. Macron dire, on entend dire, il dit ses ministres, ils sont nuls, ils ne vont pas au combat, oui, mais il leur a dit de se taire. Donc il y a un moment, il faut savoir, on est dans le moment de pouvoir solitaire qui, moi, m'inquiète énormément pour le prochain quinquennat. Vous parliez du prochain quinquennat tout à l'heure. Oui, j'ai des raisons d'être inquiet. Parce que je me dis, mais finalement, Emmanuel Macron, mais son programme électoral pour la présidentielle, c'était pas juste, finalement, d'être réélu, point. Et donc, il n'y a peut-être rien derrière, en fait. Et quand je vois qu'il ne sorte rien, il n'évoque rien, la réforme des retraites, c'était 65 ans avant la campagne, au lendemain du premier tour, il croise une dame gilet jaune, je suis contre, mais devant les caméras de BFM, en une seconde, il dit ah « Non, si vous inquiétez pas, ce ne sera pas 65, 64, je vous dis, à la fin de la campagne, on finit à 52. » Donc, il faut quand même faire un peu attention, quoi. Moi, je sais que nous, on est du vieux monde, mais enfin, il y avait un moment où on disait « Attention, la parole présidentielle, on la remonte un peu pour essayer de garder un peu de distance par rapport à l'essentiel, qui est l'intérêt supérieur du pays. »
Vous restez avec nous, Jean-François Copé, pour commenter le reste de l'actualité. L'image de son visage stupéfié avait provoqué, il y a 6 mois, l'indignation des stars du judo français. La championne olympique Margot Pino l'avait rendue publique pour dire sa colère après la relaxe en première instance de l'entraîneur Alain Schmitt, qu'elle accusait de violence conjugale. Deux sportifs qui, depuis, se déchiraient sur les bancs des tribunaux et par médias interposés avec des versions contradictoires.
Il m'a pris par les cheveux et m'a tiré vers le sol, à gauche du lit. Il s'est mis à califourchon sur moi et il a commencé à mettre des coups de poing, droite, gauche, des deux mains en tout cas. Je me suis même pas défendue pour éviter les coups, mais j'essayais plutôt de le raisonner. Je me suis dit, c'est soit t'arrives à te dégager de lui, soit t'es morte.
Je lui dis, tu sais, je vais en Israël et ce que je souhaite, c'est de trouver une moins de 70 kilos là-bas. Et j'espère qu'elle sera forte parce que je mettrai un point d'honneur à ce qu'elle te batte. Voilà, et là, elle a commencé à crier super fort. Elle a jeté ses draps, elle a sauté sur moi, elle m'a agrippé par le col. C'est parti dans tous les sens, à droite, à gauche, on a cogné dans les murs, dans un radiateur. Ensuite, on a cogné une porte, elle m'a fait tomber sur elle, dans une autre chambre. Ensuite, on s'est relevé, on a pris un mur. Ça fait des années qu'en fait, on est dans une relation un petit peu spéciale.
Bonsoir Alain Schmitt. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir aux côtés de votre avocate, maître Caroline Wasserman. Alors que vous avez été à nouveau relaxé vendredi par la Cour d'appel de Paris, je précise que Margot Pino n'a pas souhaité contester cette nouvelle décision de justice. Autrement dit, il n'y aura pas de pourvoi en cassation. Vous êtes soulagé, on imagine, de cette décision, avec, dites-vous, la possibilité de reprendre enfin une vie normale après 6 mois, entre parenthèses.
Bah, tout à fait, oui, c'était 7 mois avec beaucoup de doutes et beaucoup de travail aussi pour dénouer le vrai du faux. Et voilà, des nuits sans sommeil.
Des accusations qu'il a fallu affronter.
Bah, il y en a eu beaucoup, même sans parler de cette nuit-là. Il y a eu beaucoup d'accusations et beaucoup de fausses accusations, je dirais. Et c'était dur à encaisser, mais... Bon, c'est. Je sais pas trop quoi dire par rapport à ça, mais ça va mieux.
La justice a donc réexaminé les faits qui se sont déroulés dans la nuit du 27 au 28 novembre 2021 et a conclu que Margot Pino avait menti en vous accusant de violence conjugale. En tout cas, que son récit faisait état de contradictions. Maître, quelles sont ces contradictions dans le récit de Margot Pino?
Elles sont nombreuses. Elle a menti sur la façon dont les choses se sont passées. Elle a menti sur le déclenchement de la brouille, puisque en vérité, c'est elle qui s'attaque à Alain quand il lui annonce qu'elle part. Alors, on ne va pas refaire tout le détail parce que ce serait long, et puis je pense que ce n'est pas ça qui vous intéresse. Mais elle a menti sur le déclenchement, elle a menti sur le déroulé. Et après, dans la suite, c'est-à-dire dans l'enquête avec la police, on a observé des manipulations et des petites modifications de la scène de crime, pour résumer, des histoires de mèches de cheveux coupées et non pas arrachées. Bon, donc en fait, il y a eu tout un système élaboré de façon astucieuse par Margot Pino ça n'a pas, ça n'a pas fait recette ni au tribunal ni à la cour d'appel. Hein.
Margot Pino a parlé d'insultes, de coups de poing, sa tête frappant le sol à plusieurs reprises, avec une photo de son visage tuméfié qui ne peut pas laisser indifférent. Oui. Ces marques, vous les expliquez par une confrontation qui aurait viré au combat de judo dans lequel vous auriez été tous les deux embarqués.
Ben, en fait, il n'y a pas eu de combat de judo. C'est, elle m'a attrapé, ensuite je me suis cogné. Moi, je me suis levé, je l'ai agrippé aussi, et là, c'est parti, comme je le dis, juste avant, à droite, à gauche, je lui suis tombé dessus. Ensuite, elle m'a tenu au sol. Enfin, c'est pas vraiment un combat de judo, parce qu'il n'y a pas eu de prise, mais c'était un petit peu l'ouragan.
Pourtant, le parquet avait fait appel de votre première relaxe. Maître, comment expliquez-vous l'appel du parquet ?
Alors, je pense que c'est... Alors déjà, je voudrais juste rebondir sur l'histoire des coups, parce que Margot Pino a raconté qu'elle avait pris à peu près 9 coups de poing. Alors, je ne sais pas si vous voyez le gabarit, hein. 9 coups de poing dans le visage, et qu'elle s'était fait cogner la tête au sol, puis sur le mur, à plusieurs reprises. Ça, c'est le scénario Marie Trintignant. Hein. Donc, Marie Trintignant, elle est morte au bout de 10 jours de coma. Margot Pino, quelques jours après, elle faisait un footing, elle se mettait sur Twitter en train de faire son footing, etc. Donc, c'est aussi dans les mensonges ridicules, enfin bon, ridicules non, dramatiques, parce que lui, il a payé cher quand même. Hein. Mm. Malgré sa relaxe, il a été derrière vilipendé, attaqué, etc. Du coup, j'ai oublié votre question.
Mais je vous demandais comment vous expliquez que le parquet de Bobigny
ait pourquoi le parquet a fait appel ? Alors, le parquet, à mon avis, a eu un rôle un peu trouble. D'abord parce qu'il a requis 1 an sursis, ce qui n'est pas compatible avec 10 coups de poing, avec des têtes frappées au sol, au mur et tout. Mais après, quand il fait appel, je pense qu'il est sous une pression. Je le dis clairement, sous une pression politique. Alors, je ne peux pas le prouver.
Pression politique et d'une société bien pensante. C'est ce que vous écrivez dans une tribune.
C'est ce que je dis dans ma tribune Marianne.
Il faut rappeler les réactions indignées.
On y vient.
Mais là, j'ai beaucoup de choses à dire aussi. Les réactions indignées de Mme Clémentine Autain, de Jean-Luc Mélenchon, d'Anne Hidalgo, enfin, bon, des gens comme ça. Et évidemment, des ministres, des deux ministres en exercice à l'époque, Mme Moreno et Mme Roxana Maracignanou. Qui se sont autorisés à critiquer les décisions des juges, ce qui est quand même fou, quoi, alors qu'ils n'ont pas
Anne
vu le dossier.
Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, ouais, deux candidats à la présidentielle.
Et puis, pas avec le dos de la cuillère, en mettant des choses
dures. D'information révoltante.
Oui, mais ce qui est révoltant, c'est qu'on ose parler d'un dossier qu'on n'a pas lu, et qu'on se fonde sur une photo, dont on ne sait pas qui l'a pris, comment, etc. Mais on n'a pas vu la photo d'Alain aussi, qui était quand même extrêmement blessé. Il avait des hématomes partout. Pour répondre à votre question, je pense que oui, le parquet a été dans le sens de la société, dans le sens du vent, si je puis dire, et qu'il y a eu certainement une indication politique derrière qui justifie cet appel. Alors, pas de chance, parce que la cour d'appel a confirmé. Et je veux vous le dire aussi, c'est intéressant, c'est que c'est 3 femmes au tribunal de Bobigny et c'est 3 femmes à la cour d'appel de Paris. Donc on ne peut pas dire qu'il y a eu un parti pris quelconque. Voilà. Je pense qu'il y a clairement un courant politico-sociétal qui veut que la femme, elle a toujours raison, et alors elle a souvent raison, mais la femme ne peut pas mentir quand elle est victime, et l'homme est forcément un sale coupable, bourreau, j'ai écrit bourreau, le bourreau idéal.
C'est ce qui vous fait dire, Alain Schmitt, que vous avez été victime du contexte MeToo, c'est ce que vous avez ressenti ? Parce qu'il y a eu les réactions politiques, mais aussi les réactions indignées de la Fédération de judo, qui s'est dit abasourdie, de grands champions, et de la ministre des Sports, qui, elle, considérait que Margot Pino était clairement la victime, et là, je la cite.
Oui, ça, c'est Mme Moreno. Non, c'est Roxana...
Roxana, la ministre des Sports de l'époque.
C'est juste que personne n'a vu le dossier. Moi, je l'ai vu, le dossier. Donc, c'est ridicule.
Disons, quand on regarde la photo, on peut comprendre l'émotion que ça a pu procurer...
Dans l'instant,
chez les gens, mais à ce moment-là, il y a quand même une relaxe. Les gens, ils auraient pu se questionner, à mon avis. On se questionne avant, on pose des questions et on attend au moins 1 ou 2 jours, on voit ce qui se passe. Là, on a dû attendre quelques mois quand même pour avoir la motivation du tribunal. Donc, c'était plutôt long. Et là, les gens, ils ont envoyé pas mal d'insultes pendant 4 mois. Voilà, et aujourd'hui, on ne les entend plus.
C'est ça, vous regrettez le silence
Le silence assourdissant. Oui, assourdissant. C'est-à-dire que tant que la cour d'appel n'avait pas confirmé cette relaxe, Les gens continuaient de parler, de raconter n'importe quoi, etc. Et là, on a, on a l'évidence, la cour d'appel après le tribunal, de relax, avec des motivations fortes. Hein. Ce n'est pas un petit jugement, c'est des pages et des pages qui racontent les mensonges, les manipulations, etc. Et là, il n'y a plus personne. C'est ça qui est fou, c'est-à-dire qu'on avait, d'ailleurs c'était assez symptomatique, à la cour d'appel, quand on est arrivé pour prendre le délibéré, il n'y avait quasiment plus de journalistes, il y avait 3-4 journalistes. Quand il a comparu, en revanche, le 8 avril, c'était le Festival de Cannes. Hein. Bon. Je trouve que c'est très dérangeant.
Mais quelle est la solution, maître, pour concilier la libération de la parole des femmes et la présomption d'innocence ? Comment on fait ?
Je ne suis pas
que les présumées victimes portent plainte sans médiatiser leurs actions, mais si c'est la médiatisation qui libère la parole d'autres victimes présumées, mais comment on fait ?
Non, il n'y a pas de solution. Il faut juste que notre société évolue et qu'on comprenne enfin que quand il y a une affaire qui se déclenche dans un tribunal ou chez un juge d'instruction ou dans les services de police, il faut se taire. Alors, c'est difficile parce que tout le monde aime parler, mais je pense qu'il faut laisser les gens qui savent parler. Et puis, il faut attendre que la justice, elle fasse son travail. Donc ça, c'est une éducation. C'est un mental qu'il faut changer dans la société. Moi, je ne suis pas là pour changer le mental des gens. Hein. Je n'ai pas cette prétention. Mais il faut que les gens apprennent, je crois, dès le jeune âge, peut-être même au lycée, on peut avancer des pistes comme ça, d'apprendre aux gens, aux gamins, dans les collèges, etc., qu'on ne parle pas à tort et travers. Typiquement, les tweets dont vous avez parlé, alors il y a eu des tweets d'une grande violence, hein. Je ne parle même pas des sportifs ou des judokas qui ne sont pas forcément au fait de ce qu'est une règle de droit et de ce qu'est la présomption d'innocence.
Mais les responsables politiques,
Les responsables politiques, ce n'est pas possible. Comment c'est possible que Roxana et Marat Sinanou et Mme Moreno aient eu l'audace d'écrire ces conneries, pardon, hein, mais comment c'est possible ? C'est-à-dire, comment c'est possible qu'un ministre qui arrive à ses hautes fonctions se permette ce genre de choses ? Je ne parle même pas des Mélenchon. Alors, Mélenchon, c'est Mélenchon, donc on sait comment il fonctionne. Mais s'il avait été un petit peu fin, d'ailleurs, il aurait pris acte de cette décision de la cour d'appel, il aurait fait un tweet en disant « je me suis trompé ». Ah, bon, ça, il ne faut pas rêver, hein, mais je me suis trompé. Moi, j'aimerais bien voir des tweets ce soir, s'il y a des gens qui regardent votre émission. J'ai fait partie des gens qui ont critiqué Alain Schmitt et qui l'ont vilipendé. Aujourd'hui, je reconnais que je me suis plantée. C'est assez, c'est bien ça. Mais ça, je rêve pas. Il y aura pas.
Alain Schmitt, vous deviez partir en Israël pour y prendre de nouvelles fonctions. Vous n'êtes jamais parti en Israël. Vous entraînez désormais les équipes de judo de Bulgarie et vous estimez que les instances du judo français vous ont causé un réel préjudice parce que votre carrière n'est plus la même là aujourd'hui que celle qu'elle aurait dû être ?
C'est totalement différent parce que, premièrement, le contrat en Israël, c'était vraiment un très gros contrat. Je parle d'argent. Donc il y a eu une grosse perte d'argent. Et ensuite, c'est surtout l'image. C'est surtout l'image parce qu'on est quand même un petit monde. C'est du judo, c'est pas le football ou le basketball. Donc forcément, on est hyper connu dans le milieu et tout le monde parle de vous assez rapidement et chacun se fait son idée. Bon, aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de soutien, donc ça va beaucoup mieux. Mais c'est vrai que j'ai trouvé plus de soutien chez les étrangers que chez les Français. Voilà.
Merci beaucoup Alain Schmitt d'être venu ce soir sur le plateau. Merci Caroline Wasserman. Je rappelle qu'on peut lire votre tribune. Relaxé, Alain Schmitt a été livré à la vindicte de tous, sportifs, médias et politiques. Tribune parue dans Marianne ce jour. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau. C'est à vous.
Politique, oui.
Oui, exactement. J'allais faire réagir Jean-François Copé.
Écoutez, d'abord, je réagis aussi comme avocat, pardon, mais effectivement, j'écoutais tout cela. D'abord, je voudrais vraiment rendre hommage à votre courage, parce que face à cette déferlante, pour reprendre le mot qu'utilise Mélenchon pour en appeler à la révolte, quel courage vous avez eu de défendre cette thèse. Moi, je pense, comme vous, que la moindre des choses pour un responsable politique, c'est finalement de faire ce qu'on fait quand on sait ce que c'est que le courage politique. C'est de reconnaître quand on s'est trompé.
Oui.
Et c'est vrai qu'il y a des tweets qui manquent ce soir. Et de la même manière, moi, à titre personnel, je me suis toujours imposé de refuser tout commentaire de décision de justice. Mais à votre question, comment on fait pour éviter ça ? On se rappelle que dans un état de droit, à la fin de la journée, qu'on le veuille ou non, c'est le juge qui décide. C'est d'ailleurs sa vocation. Et c'est pour ça qu'on en appelle si souvent à la responsabilité des juges.
chacun doit être dans son rôle. Et c'est la grandeur des magistrats, elle est là, justement. Et notre rôle, quand on est un responsable politique, pas quand on est un avocat, mais quand on est un responsable politique, bah oui, c'est de se taire, pour une raison d'ailleurs très simple. C'est qu'on porte atteinte à la séparation des pouvoirs lorsqu'on vient s'immiscer dans des décisions de justice. Et M. Mélenchon, qui prétend vouloir être Premier ministre, ferait bien de méditer tout cela et de se dire que quand on est Premier ministre, on respecte la séparation des pouvoirs.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce soir sur le plateau de C'est à vous. De notre côté, c'est le 5 sur 5 de Mathieu Béliard.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir Mathieu.
Mathieu, Emmanuel Macron en voyage officiel en Europe de l'Est.
Oui, c'est sa première tournée dans le sud-est de l'Union européenne depuis le début de la guerre en Ukraine. Il est arrivé en Roumanie hier soir où il a passé la nuit avec les soldats français engagés sur place. L'Élysée ne confirme pas la rumeur européenne selon laquelle le président pourrait faire un crochet par l'Ukraine, mais il a parlé de la situation sur place, bien sûr.
Dès le premier jour, la France a été claire pour dire que la Russie était l'agresseur et qu'elle menait une guerre contre l'Ukraine et son peuple. Je n'ai jamais partagé les propos qui consistaient à dire qu'aujourd'hui, nous ferions la guerre au peuple russe et que demain, nous voudrions l'anéantir. Puisque c'est ce qui s'est parfois dit. Non. Parce qu'à un moment donné, quand nous aurons aidé au maximum à résister, quand, je le souhaite, l'Ukraine aura gagné et surtout que le feu pourra cesser, nous devrons négocier. Le président ukrainien et ses dirigeants devra négocier avec la Russie.
Cet après-midi, le président est arrivé en Moldavie, deuxième étape de ce voyage. La Moldavie, hors Union européenne, hors OTAN, particulièrement exposée. La frontière n'est qu'à une soixantaine de kilomètres d'Odessa. Dans le même temps, depuis l'Ukraine, Volodymyr Zelensky réclame toujours plus d'armes et dénonce le coût humain des combats à Severodonetsk.
Втрати, на жаль, втрати, і вони болісні. Але потрібно триматись. Це наша держава. Триматись саме там, на Донбасі, життєво необхідне. Тому донбаський напрямок ключовий для визначення того, хто буде домінувати найближчими тижнями.
Si on passe côté russe à présent, et là on ne parle plus de la guerre, quoique on imagine Vladimir Poutine et la Russie complètement isolés de la scène internationale, et bien pourtant de nouveaux ponts se font au sens propre du terme à l'est du continent asiatique. Un nouveau pont qui vient d'être inauguré entre Blagoveshchensk côté russe et Heihue, ville voisine côté chinois. On est au sud-est de la Sibérie alors que Moscou cherche à contrer les sanctions occidentales. C'est vers la Chine que se tourne la Russie. Vous voyez là ce pont d'un kilomètre de long qui enjambe le fleuve Amour, pont destiné à accroître les échanges commerciaux entre les deux pays. Une inauguration qui s'inscrit dans le projet économique de nouvelle route de la soie de Pékin. Et par ailleurs, dans un échange téléphonique rapporté par l'agence de presse Chine Nouvelle, le président chinois Xi Jinping a assuré Vladimir Poutine du soutien de Pékin. Je cite, « La Chine est disposée à poursuivre avec la Russie le soutien mutuel sur les questions de souveraineté, de sécurité, ainsi que d'autres questions d'intérêt fondamental et préoccupations majeures. » C'est dans ce contexte que s'ouvrait aujourd'hui le Davos russe, le forum économique de Saint-Pétersbourg, boudé cette année évidemment par les Occidentaux, pas forcément par les Africains et les Asiatiques. L'occasion de regarder une archive, le même forum, il y a 4 ans, Emmanuel Macron avait fait le déplacement.
Je crois très profondément que la Russie a son histoire et son destin dans l'Europe. Je tiens à cet ancrage de la Russie en Europe et avec l'Europe. Je tiens à la présence de la Russie dans le Conseil européen. Nous devons apporter un soutien clair au projet stratégique franco-russe et renouveler notre coopération.
C'est dire si le monde a changé ces dernières années.
Retour en France où il commence à faire très chaud.
Oui, et ça va durer jusqu'au week-end. Des températures au-delà de 35, voire 40 degrés, des nuits chaudes. 23 départements sont placés en vigilance orange canicule. Je vais commencer par un hommage et un sourire. Iban Raïs et Anaïs Recouli sont allés rencontrer les fous furieux du sport qui, malgré la chaleur, ne renoncent pas à leur entraînement.
C'est dur aujourd'hui, Adrien, ou pas?
Sous la chaleur? Ouais, c'est plus épuisant, ouais. Je suis un peu plus mou.
Back et front.
Back et front. Ça va que c'est des figures que je maîtrise à peu près, mais sinon, sous la chaleur, ouais, c'est beaucoup plus épuisant.
Compliqué avec la chaleur, là?
Ouais, le souffle, il coupe un peu. Mais ça va, franchement ça tient.
Vendredi va faire 35, est-ce que vous allez venir vous entraîner ou pas?
On s'entraîne toujours, il n'y a pas d'excuses, on est toujours là. En vrai on est toujours là. Quoi qu'il arrive, même s'il pleut, il vente, on est tout le temps dehors. Hein.
Je ne sais pas si c'est très recommandé par ces températures. Alors, une simple parenthèse, notre reporter Iban Reis, que vous venez de voir, a voulu s'y essayer. Regardez.
Donc, je gagne les abdos.
Ouais.
Voilà. C'est ici qu'il descend, ouais. C'est les épaules qui montent. Ouais, mais je peux pas descendre bas, en fait.
Ouais, mais il faut descendre bas pour que ça travaille, du coup.
Ah ouais. Ouais. Ah, mais j'ai pas envie que ça travaille.
Et maintenant, une démonstration de Patrick. Je plaisante évidemment. Je crois que ce n'est pas très recommandé d'ailleurs par cette chaleur de pratiquer une activité sportive intensive. Plus sérieusement, avec ces fortes chaleurs, les organismes sont éprouvés. La plus grande vigilance est de mise pour les plus fragiles, notamment les plus âgés, parfois isolés. Louis Amar et Camille Schmitt ont suivi une visite. Aurélie, bénévole, le petit frère des pauvres, chez Janine, 87 ans.
Coucou Janine.
Coucou.
Ça va?
Comment tu vas?
Ça va bien et toi?
Ben ça va, ma vie. Grâce à toi.
Déjà deux bouteilles d'eau.
C'est gentil, merci.
Elles sont plus... Ouais, elles sont encore fraîches. Je t'ai rapporté un ventilateur et je t'ai ramené aussi un brumisateur.
Ah oui.
Bah, tu penses à boire dans la journée?
Ah oui, tu veux que je boive, hein. Oui. Dès qu'elle peut, elle vient me boire pour m'aider dans mes problèmes. Déjà, c'est une amie pour moi. Depuis que je l'ai rencontrée, on a beaucoup échangé. Et surtout, elle m'apporte beaucoup de bien-être.
Par ces temps de canicule, on a une vigilance particulière parce qu'effectivement, on va accroître notre présence et, à la fois téléphonique et physique pour s'assurer que tout va bien. Est-ce qu'elle boit suffisamment? Est-ce qu'elle n'a pas trop chaud la journée et le soir et la nuit? Est-ce qu'elle arrive à dormir la nuit malgré la chaleur? Et on le fait dans la joie et la bonne humeur, et ça, c'est le plus important.
Bonsoir, chère Evelyne Delia.
Bonsoir.
Chef du service météo de TF1, les bulletins météo que vous présentez depuis...
Eh bien, écoutez, ça fera 30 ans en septembre prochain. À chacune son jubilé.
La reine de la météo de TF1. Des records de chaleur, vous en avez annoncé de nombreuses fois. Mais quand vous annoncez les records de chaleur à venir, là, c'est dans quel état d'esprit que vous le faites, Evelyne Delia?
Ces records de chaleur sont de plus en plus fréquents, surtout ces fortes chaleurs et ces canicules. Ce dont on s'aperçoit, c'est que ces canicules sont de plus en plus précoces, juin, et se terminent, elles sont de plus en plus tardives aussi. On a souvent des canicules jusqu'en septembre, alors que normalement, c'est juillet et août, les températures les plus élevées. Là, on vit quelque chose d'exceptionnel, d'autant plus que le mois de mai que l'on vient de vivre a été le plus chaud et le plus sec jamais enregistré en France.
D'ailleurs, quand on regarde les infos en ce moment, on parle de cette vague de chaleur et puis on parle aussi d'incendies dans le Gard, la Lozère, les pompiers qui sont déjà inquiets. On se croirait au cœur des étés les plus chauds alors qu'on est encore, techniquement, on est encore au printemps quelques jours.
Alors, nous sommes déjà dans l'été météorologique qui commence le 1er juin, mais c'est vrai que l'été sur le calendrier, ça commence le 21 juin, mais là, ça commence quand même très tôt.
Alors, Evelyne Delia, il y a une vidéo qu'on vous repasse souvent, hein, une fausse météo du futur pour alerter sur le réchauffement climatique, vidéo que vous aviez tournée, mais qui est vraiment de circonstance.
Madame, monsieur, bonsoir. Encore de fortes chaleurs en ce 17 août 2050 avec un soleil de plomb à peine voilé. Demain matin, les températures seront déjà très élevées, notamment à Paris, à Perpignan ou à Nice avec 26 degrés. Et dans l'après-midi, on atteindra ou dépassera encore les 40 degrés, 41 à Agen, 41 à Strasbourg, 40 dans les capitales, 42 pour Lyon et jusqu'à 43 degrés prévus à Nîmes. 38.
Alors, je voudrais qu'on garde la carte à l'écran, Evelyne Delia, parce qu'on parlait du 18 août 2050.
Mais attendez,
en fin de compte, c'est ce qu'on a cette semaine,
non,
presque.
Alors, vous voyez Nantes, 38 degrés.
Oui.
Eh bien, Météo France, moi j'ai les températures ville par ville pour vendredi. Nantes, 40 degrés. Et on est au mois de juin. Non, mais c'est impressionnant. Cette météo, quand il y avait eu la COP21, l'Organisation météorologique mondiale avait demandé à un présentateur météo de chaque pays de faire une météo de 2050. Donc moi, j'avais travaillé avec Météo France, qui fait des projections. Quand ils m'ont envoyé la carte, je leur ai dit non, mais attendez, c'est pas possible. Et finalement, on a pulvérisé les records. En juillet 2019, 42 degrés 6 à Paris, il n'avait jamais fait aussi chaud. Et le 28 juin 2019, 46 degrés, c'était à Vérargues, dans l'Hérault. Ça, c'est un record absolu. Il n'avait jamais fait aussi chaud en France. Et alors, quand on vous donne ces températures, évidemment, ce n'est pas au soleil. Hein.
C'est
à l'ombre, à l'abri.
Alors d'ailleurs, il y a un de vos confrères qui s'est fendu d'un d'un petit coup de gueule sur BFM TV. Marc. Fini les sourires, ouais. Marc. Eh oui, fini les sourires sur les terrasses, les barbecues, les piscines, les badauds torse nu. Fini de se réjouir en fait du beau temps. La météo de cette semaine, ce n'est pas forcément le sujet.
J'ai décidé, depuis maintenant quelques jours, d'arrêter d'utiliser mon ton habituel qu'au final, je trouve un peu au fur et à mesure des mois un peu nuls. C'est-à-dire d'arriver en plateau et de vous dire « La France va être concernée par une nouvelle canicule, la canicule précoce. » Je pense que ça ne marche plus. C'est-à-dire que là, il faut bien comprendre il faut que les gens comprennent que la France, clairement, va cramer cette semaine.
Alors, il faut passer aux choses sérieuses, Evelyne Delia. On sait que météo du jour et climat, ce n'est pas forcément la même chose, mais c'est aussi votre rôle d'alerter.
Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que moi, je me sens concernée depuis belle lurette, hein, depuis des années, pour ne pas dire des décennies. Et c'est vrai qu'au début, quand je parlais de réchauffement climatique, tout le monde me disait « Mais attendez, c'est quoi ?» Et c'était difficile pour les gens d'appréhender, parce que quand on leur disait en un siècle, les températures, à l'époque, on disait « risquent d'augmenter d'un degré 5 ou 2 », et que dans ce bulletin, je leur disais « Demain, bah, vous aurez 3 degrés de plus », c'était complètement anachronique et difficile à percevoir. En revanche, maintenant, on a vraiment les pieds dans le plat, hein, ouais. Si j'ose dire. Et ce que je remarque, c'est que les jeunes sont très sensibles. La nouvelle génération est très sensible à ce changement climatique et même inquiète, d'ailleurs, pour l'avenir.
Mais vous, quand vous pourriez dire au bulletin météo de TF1, on va cramer dedans, la France demain, la France bon. Crame. C'est grave et c'est pas une histoire de barbecue et de
bon,
et de plage,
cramer,
quoi.
C'est peut-être ça veut dire ce que ça veut dire. Marc l'a dit comme ça, mais c'est vrai que c'est tout de même inquiétant ces températures de plus en plus élevées. Et par exemple, on a depuis 2006, on a eu pratiquement tous les ans. Une vague de chaleur, sauf en 2014. Les 10 années les plus chaudes, avec les températures les plus élevées, sont au 21e siècle, et les 7 années les plus chaudes sont dans les 10 dernières années. Donc on voit que tout ceci s'accélère.
Et il va falloir s'habituer à ces températures.
Il va falloir essayer aussi de faire en sorte de freiner, mais c'est compliqué.
Voilà, c'est des décisions politiques. C'est Jean-François Copé.
Non, mais c'est des décisions politiques, bien sûr.
Oui,
et je me mets à la place de celui qui nous écoute et qui dit maintenant qu'on m'a asséné tout ça, pas vous, mais parce qu'on l'entend tous les jours, je fais quoi, moi, avec tout ça? Parce que moi, j'essaie, je trie mes déchets, j'essaie de voir comment économiser de l'énergie, mais ça me dépasse. Et en fait, c'est tout le drame de notre débat sur l'écologie. C'est qu'on a d'un côté les phénomènes que vous décrivez qui sont terrifiants, de l'autre, des citoyens confrontés à une réalité à laquelle ils ne peuvent pas répondre, et des dirigeants au milieu, bah, qui, à chaque fois qu'ils prennent une décision, ça donne lieu à toutes les polémiques possible, donc il n'y a pas de consensus en fait.
Bon, une bonne nouvelle, voilà, parce qu'on a écrasé nos téléspectateurs, il y a quand même une bonne nouvelle, Mathieu.
Un titre. Champion d'Europe, oui, Babette, Cocorico. Avant le chauvinisme, la discipline. En France, nous avons le champion d'Europe d'imitation de chant d'oiseau qui se tenait ce week-end. Nous sommes aussi champions par équipe. Et comme j'ai découvert cette compétition à cette occasion, je voulais vous en jouer un petit florilège. C'est amusant de prime abord comme ça. Et ensuite, quand on regarde, franchement, les compétiteurs sont impressionnants.
Je sais comment t'impressionner, Mathieu.
Et quel est l'oiseau rare qui a gagné?
Alors, le champion d'Europe d'imitation du cri d'oiseau s'appelle Christophe Manivet. Vous le voyez au centre sur la photo, peintre en bâtiment dans le civil. C'est un spécialiste de l'imitation du merle noir.
Ah bah, bravo à Christophe Manivet.
Sans accessoires. Hein, sans...
ça dépend quel oiseau, en fait. Dans la compétition, il y a certains oiseaux pour lesquels les accessoires sont autorisés.
Merci, Mathieu. Merci, chère Evelyne Delia, d'être venue ce soir sur le plateau de C'est à vous. On vous regarde toujours religieusement pour les bulletins météo de TF. Que vous dirigez, service que vous dirigez. Merci beaucoup Jean-François Copé. Dans un instant, nos invités Audrey Fleurot, Mela Bédia. Et puis, on va vous présenter des créatures extraordinaires et extravagantes. A tout de suite pour le dîner de C'est à vous.